Terre.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait taille à lutter.
Un peu de ZAD.
On ne veut pas que du ciel descende, des cendres de mort et de fer.
Un peu de grève.
Pilote sur ton crève, de faim, de froid, de tout, autour faire la grève.
Du gaz de schiste.
Exploitation de gisements de gaz de schiste.
Du logement.
Toi,
du féminisme. Bon, bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Canu Info du vendredi.
Membres du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Ils ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de marquer un gros sport en guerre. On aura pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour entraver notre grève, tout simplement.
Et ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Bonsoir, bonsoir. Vous êtes sur Radio Canu, il est 19h02 et c'est l'heure du Canu Info du vendredi. On va commencer ce soir par vous parler des rassemblements pour la prolongation de la trêve hivernale.
Ensuite, on vous parlera de la journée de mobilisation à Lyon et ailleurs pour la régularisation des migrantes et des migrants contre les centres de rétention.
Et ensuite, dans le national, on vous parlera de déboulonnage de statut.
On ira à Mayotte où le Covid n'arrête pas les expulsions.
Et puis on vous parlera de la loi Avia, ou dites la loi N, parce que le Conseil constitutionnel a refusé la censure sans juge.
Toujours au national, on fera une rubrique nucléaire en vous parlant de Golfech et de Fessenheim.
Ensuite, on vous lira un texte de solidarité avec les habitants de Grésy à Dijon.
Et on ira à l'étranger pour la rubrique féministe. Après la Hongrie, la Roumanie aussi interdit les études de genre.
Pour finir par un petit agenda. Bonne écoute sur le Canu Info.
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Boulet.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Ce reportage sur la grève qu'on a
Canu Info du vendredi.
Rubrique locale.
À Lyon, plus d'une centaine de personnes se sont réunies mercredi dernier pour lancer le mouvement en faveur de la prolongation de la trêve hivernale sur la métropole jusqu'au moins le 31 mars 2021. En France, la loi rend théoriquement impossible les expulsions entre le 1er novembre et le 31 mars chaque année. Pour lutter contre la propagation du Covid-19, le gouvernement a daigné prolonger cette trêve hivernale sur tout le territoire national jusqu'au 10 juillet. À Paris, les trois principaux bailleurs sociaux de la ville ont annoncé qu'ils n'expulseraient personne jusqu'à octobre, faisant la jonction avec la trêve hivernale suivante. Au mois de juillet, si la trêve sur Lyon n'est pas prolongée, les expulsions locatives et des squats pourraient légalement reprendre. Tiens, c'est pile poil le moment où l'on estime qu'une deuxième vague d'épidémie pourrait avoir lieu. Après plus de 2 mois de confinement, la crise sanitaire est devenue crise économique. Les personnes les plus précaires, celles qui ont des boulots au black ou des contrats précaires qui ne seront pas renouvelés, les chômeurs, les personnes sans emploi, en ont subi particulièrement les conséquences. Le nombre de personnes qui ne pourraient plus payer leur loyer et leurs factures va sans doute augmenter dans les prochains mois. Combien de locataires vont être expulsés de leur logement ? On connaît d'ailleurs la passion pour les dirigeants de la métropole et pour la préfecture de Lyon pour l'expulsion des squats habitatifs, qu'ils accueillent des mineurs, des demandeurs d'asile, des familles. Et l'on sait bien que pour les personnes expulsées de leur logement ou de leur squat, le parcours pour être hébergé ailleurs est long et plein d'obstacles. Depuis des années, les travailleurs et travailleurs sociaux, membres d'associations diverses, habitants de la métropole, dénoncent le manque croissant de places d'hébergement d'urgence malgré les effets d'annonce de la préfecture. On rappelle aussi que pendant la crise sanitaire, pendant le confinement, les personnes à la rue n'ont pas pu faire appel à des places à la nuitée par le 115, ni avoir accès à des lieux d'accueil de jour où, par exemple, ils pouvaient auparavant prendre des douches. Ces personnes ont également été verbalisées par les forces de l'ordre parce qu'elles étaient dehors, sans attestation. Sauf qu'elles ne pouvaient pas se confiner chez elles parce qu'elles n'en avaient pas. Pour éviter les remises à la rue et les expulsions, plusieurs rendez-vous sont prévus sur Lyon les prochaines semaines. Du coup, il y a eu un premier rassemblement avec prise de parole le mercredi dernier. C'était le 17 juin et c'était à Place Guichard. Mais d'autres rendez-vous vont avoir lieu. C'est mercredi 24 juin, c'est mercredi prochain à 18h devant le Crous. Et il y aura une manifestation samedi 27 juin dans un lieu à définir. La demande d'une prolongation de la trêve hivernale jusqu'en mars 2021 n'est qu'un premier pas vers une trêve illimitée.
Sans papier.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestin.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
No border.
Et il se passe plein de choses ce samedi 20 juin, un peu sur le thème de la mobilisation en soutien aux migrants et migrantes. Pour commencer, il y a une manifestation qui est appelée à 15h à partir de Bellecour, qui est appelée par le collectif de soutien aux réfugiés, migrants et migrantes Lyon 69. C'est une journée de mobilisation nationale dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés. Elle appelle à faire converger tous les appels à la régularisation des sans-papiers vers des initiatives communes. Je ne sais pas si vous avez vu passer, pendant le confinement, il y a eu plusieurs pétitions et plusieurs appels à la régularisation des personnes migrantes sans droit au séjour. Pas que pour le temps du confinement, comme ça a pu se faire dans certains pays comme le Portugal ou l'Italie, mais vraiment pour une régularisation à long terme. Comme on disait tout à l'heure, les personnes migrantes sans droit au séjour sont parmi les personnes les plus touchées par la crise sanitaire parce qu'elles habitent soit à la rue, soit dans des foyers sans des squats. Donc l'insécurité sociale et sanitaire est au maximum. Et en plus, c'est des personnes qui souvent, comme elles n'ont pas le droit de travailler, elles n'ont pas le droit aux allocations, et ben, elles sont sans ressources et du coup pas d'accès aux moyens de subsistance et pour certains et certaines, pas d'accès gratuit aux soins. Plus, bien évidemment, le risque et l'angoisse liés à la possibilité d'être placé en centre de rétention et expulsé. Du coup, cette mobilisation demande la régularisation inconditionnelle de toutes et tous les sans-papiers avec droit aux revenus sociaux, droit aux mesures de chômage partiel pour celles et ceux qui travaillaient et accès gratuit à la santé. Le collectif à l'origine de la manifestation demande également l'accès aux soins pour toutes et tous via des structures indépendantes de la préfecture et des gestionnaires assurant confiance et confidentialité, la fermeture immédiate des centres de rétention administrative, les CRA, l'ouverture immédiate des lieux sans condition de papier et de revenus pour permettre un hébergement et une vie collective, l'arrêt des procédures d'expulsion contre les squats et la suspension des loyers pendant toute la durée de l'urgence sanitaire et l'apurement des loyers impayés. Du coup, rendez-vous à 15h le samedi 20 juin à Bellecour. Mais comme cette journée, c'est une journée nationale, il se passe plein de choses ailleurs. Et du coup, en même temps que cette manifestation, à Grenoble, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le lancement du campement des jeunes majeurs. Alors en fait, à Grenoble, il y a un collectif de jeunes majeurs qui, déjà en février 2020, avait été très très mobilisé. Et entre autres, il et elle avaient occupé la salle paroissiale de l'église Saint-Paul. En fait, les jeunes majeurs dénoncent une situation qui est absurde, c'est qu'en fait, les mineurs, quand ils sont en France, les mineurs isolés, ils sont pris en charge par l'ASE, ils sont hébergés, ils peuvent faire des études. Et à l'arrivée de leurs 18 ans, et ben, ils se retrouvent sans papier et sans logement. Du coup, voilà, depuis l'été 2019, à Grenoble, il y avait eu des manifestations, des actions symboliques, des communiqués de presse, des demandes de rendez-vous qui se sont enchaînées sans résultat, qui étaient appelées par ce collectif de jeunes majeurs de Grenoble. Et du coup, pour cette journée du 20 juin, c'est un campement qui est lancé sur le parvis du musée de Grenoble, arrêt Notre-Dame du musée, pour obtenir la régularisation, un logement et des contrats jeunes majeurs. Et du coup, l'inauguration aura lieu à 16h30. N'hésitez pas à y aller si vous êtes dans le coin pour soutenir les jeunes majeurs en respectant les mesures sanitaires. Et le 20 juin aussi, par contre, on revient sur Lyon. Et ben, il se passe encore deux choses en soutien aux migrants et migrantes. Et cette fois, il s'agit d'une assemblée publique qui aura lieu à 18h place Guichard pour organiser la mobilisation contre la construction d'un nouveau centre de rétention administrative à côté de l'actuel CRA dans la zone de l'aéroport de Saint-Exupéry. En fait, le gouvernement a annoncé la construction de trois nouveaux centres de rétention en France, dont un à Lyon. Voilà, les centres de rétention administrative, on le rappelle, sont des prisons, bien qu'ils ne soient pas désignés comme tels officiellement. Ce sont des lieux d'enfermement où les violences policières, les menaces et les humiliations sont quotidiennes. L'État y enferme les personnes qu'il considère en situation irrégulière sur le territoire français. Et les personnes qui sont détenues peuvent l'être jusqu'à 90 jours, à l'issue desquels ils et elles sont soit déportés, soit incarcérés en maison d'arrêt parce qu'ils ont refusé d'être déportés, soit relâchés, mais restons quand même sous la menace d'une nouvelle arrestation. En 2018, plus de 45 000 personnes ont été enfermées dans les 24 centres de rétention de France métropolitaine et Outre-mer. Toujours en 2018, 480 nouvelles places ont été créées en aménageant les centres de rétention existants, mais aussi en les agrandissant comme à Nîmes, Vincennes, Coquelles ou Lyon. En novembre 2019, le gouvernement a annoncé la construction de trois nouveaux CRA à Olivet, Bordeaux et Lyon, avec pour objectif d'augmenter toujours plus les capacités d'enfermement. Ce sont les premières constructions de nouveaux CRA depuis près de 10 ans. L'État s'emploie à criminaliser, enfermer, torturer, expulser toujours plus les personnes étrangères. Le centre de rétention actuel de Lyon se trouve à Colombier-Saugneux, juste à côté de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, et il a été créé en 1995 dans un ancien hôtel Formule 1. Il a déjà été agrandi une première fois en 2019 pour arriver à une capacité de 140 places. Il est géré par la police aux frontières et par Forum Réfugiés, association à laquelle l'État sous-traite un prétendu accompagnement juridique. Les débuts des travaux du nouveau CRA sont annoncés pour mai 2020 et l'ouverture pour 2022. Mais à ce jour, rien n'a encore commencé. La construction est prévue à proximité immédiate du CRA actuel sur un terrain de 15 000 m² appartenant à Vinci, comme toute la zone de l'aéroport. Le montant du marché s'élève à 22 855 millions d'euros. Bah, ça paraît énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et il faut rappeler que les CRA, c'est effectivement un nouveau marché très, très rentable. Et nombre d'entreprises privées collaborent avec l'État et travaillent à maintenir ce système. Par exemple, entre la réouverture des CRA de Hendaye et des Guess-Polsheim, l'extension de ceux de Nîmes et de Coquelles et le lancement des nouvelles constructions, les appels à projets fleurissent sur les plateformes d'annonces de marché public. Et les promoteurs immobiliers partent à la cueillette des contrats juteux. Une poignée d'entreprises se partagent le marché. Eiffage, Temis FM, qui est une filiale de Bouygues, Gepsa, filiale d'Engie, Sodexo, Spi Batignolles. À Lyon, la réalisation du nouveau CRA est attribuée au groupe Eiffage, champion des constructeurs de tôles, assisté par l'entreprise Icamo, qui a déjà géré des chantiers pour la prison de Saint-Quentin-Fallavier. À Olivet, près d'Orléans, l'ouverture du nouveau CRA est prévue pour 2023 et le coût total estimé à 13 millions d'euros. Un collectif s'est monté et une mobilisation a d'ores et déjà commencé. Le 4 avril, une manifestation devait avoir lieu. Elle a été annulée à cause du confinement, mais la lutte continue. C'est le temps de s'organiser à Lyon aussi pour organiser la mobilisation au niveau local. Donc à Lyon, à l'issue de la manifestation de 15h au départ de Bellecour le 20 juin, retrouvons-nous nombreux et nombreuses à 18h place Guichard pour nous mobiliser contre la construction de cette nouvelle prison.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et voilà, au niveau du national maintenant, on avait envie de revenir un peu sur ces questions de statuts et faut-il déboulonner des statuts. Alors, pour vous refaire un peu le contexte, on peut aller par exemple le 7 juin à Bristol en Angleterre, où la statue d'Edward Colston, marchand d'esclaves du XVIIIe siècle, a été déboulonnée par un groupe de personnes protestant à la suite de la mort de George Floyd aux États-Unis. Mais déjà en Martinique et en Guadeloupe, c'est plusieurs statues de Victor Schoelcher qui ont été détruites fin mai 2020. Alors par exemple, Edward Colston, on comprend tout de suite quoi. Il incarne les injustices et l'horreur du système impérial et colonial. Il y a vraiment marqué marchand d'esclaves quoi. Pour Victor Schoelcher, ça a un peu plus défrayé la chronique puisqu'il est présenté comme la personne qui a décrété l'abolition de l'esclavage le 27 avril 1848. Et donc ça a un peu plus surpris certaines personnes. C'est quand même assez facile à comprendre pourquoi on a envie de déboulonner cette statue. Et du coup, beaucoup de gens expliquent qu'en aucun cas ce dernier ne peut être présenté comme un sauveur. Et en effet, si l'abolition de l'esclavage a été décrétée le 27 avril 1848, c'est parce qu'il y a eu d'énormes mobilisations, émeutes, révolutions en amont, et notamment le 22 mai 1848, ce sont bien les personnes qui étaient à ce moment-là des esclaves qui se sont rebellées contre les colons et qui ont arraché leur liberté en Martinique au terme de plusieurs jours de violentes émeutes. Depuis, le débat autour des statuts s'est intensifié et le président de la République dimanche dernier a même condamné ces actions. Quand on dit ces actions, c'est évidemment les actions de déboulonnage qui, pour notre plus grand bonheur, se sont multipliées. Par exemple, ce lundi 15 juin, une statue du général de Gaulle a été recouverte de peinture à Aumont, près de Maubeuge, dans le Nord. Au dos du monument, l'inscription « esclavagiste » a été taguée au pochoir à l'aide de la même couleur. À Lille, depuis 2018, plusieurs collectifs demandent de débaptiser la rue Faidherbe, qui est quand même un des pères de l'impérialisme français. Alors que du coup des réflexions s'accentuent dans plusieurs pays sur le sort des statuts d'esclavagistes, suite à leur dégradation, donc comme je vous l'ai dit, le président français a affirmé son refus que la République déboulonne des statuts. Et du coup, les arguments du président, c'est un peu, on ne peut pas montrer le dos, faire dos à notre mémoire. Mais comment traiter la mémoire de l'esclavage et de la colonisation dans l'espace public? On a été assez contente et surprise de découvrir et d'entendre Françoise Vergès sur une matinale de France Culture cette semaine. Du coup, pour vous resituer un peu, Françoise Vergès, c'est une universitaire féministe décoloniale française et qui nous a notamment dit « Place Vauban à Paris, il y a Gallieni d'un côté, Lyautey et Fayolle de l'autre ». La statue de Gallieni est frappante. Il est debout sur quatre figures féminines qui lui tiennent sur leur tête. Toute cette esthétique du vol, du viol, de la soumission, du pouvoir, d'une masculinité guerrière et militarisée, je ne vois pas en quoi ça nous apprendrait l'histoire. Quand le président dit qu'il sera intraitable sur le racisme et les questions d'égalité, les demandes de retrait des statues est une question d'égalité. Il n'y a pas de justice dans la façon dont la France présente les monuments. En réalité, il n'y a pas de récit figé. La République pourrait se demander les récits qu'elle voudrait mettre en avant. Plus profondément, c'est la question d'une plus grande égalité, de l'antiracisme. Quels sont les récits valorisés? Qu'est-ce qui est enseigné à l'école? Qu'est-ce que les enfants de France apprennent? Et du coup, Françoise Vergès, elle poursuit et elle nous dit « La question n'est pas de s'excuser, mais de déconstruire. Qu'est-ce que vous faites chaque jour contre le racisme? En tant que personne blanche, qu'est-ce que je fais pour déconstruire une société qui me donne des privilèges? Les statuts, ce n'est pas l'histoire, ce sont des choix politiques. » Et du coup, dans cette mouvance, des Lyonnais ont décidé de constituer une cartographie des lieux qui, dans l'agglomération lyonnaise, exposent des vestiges esclavagistes ou colonialistes. C'est une initiative qui est participative de création d'une carte recensant des statues, des rues, des places, rendant hommage à des figures esclavagistes ou colonialistes à Lyon et dans ses environs. Cette initiative est pour ses créateurs un outil d'éducation populaire. Ils ont voulu signifier aux Lyonnaises et aux Lyonnais qu'ils traversaient tous les jours des espaces résiduels d'une histoire oppressive, d'une histoire qui n'a rien de glorieuse aujourd'hui, d'une histoire qui a mené à la domination par l'Europe de bon nombre de territoires et de leurs populations.
une histoire qui n'a pas à être célébrée. Si on prend l'exemple du pont Gallieni, par exemple, il faut quand même rappeler qu'il était général dans l'armée française et qu'il a organisé la « pacification » avec des gros guillemets de nombreuses zones en Afrique, dont Madagascar, où il est nommé gouverneur général en 1896. Il a notamment instauré le travail forcé et l'instigateur de nombreux massacres. On a un peu envie au final d'en finir avec les biographies sélectives. On peut prendre l'exemple aussi du pont Winston Churchill, à qui on a fait l'honneur de baptiser un pont à son nom. Et on se rend rapidement compte que cet hommage a été rendu en 1966, 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il ne prend seulement en considération le rôle que ce personnage a joué dans la lutte et la résistance contre le nazisme. À aucun moment, l'hommage a été rendu pour son rôle joué dans l'entreprise coloniale britannique, par exemple, ou pour sa répression héroïque des Kenyans lors de la révolte des Mao Mao dans les années 50. Ainsi, nous nous apercevons qu'un homme a été honoré pour des actes à un certain moment de l'histoire, occultant finalement tout le reste de sa biographie, ainsi que sa pensée politique. Mais il faudrait pourtant accepter qu'une partie de l'histoire d'un personnage historique soit honorée, au détriment de ses autres actes, de sa pensée politique, de l'ensemble de sa biographie. Ensemble, en somme, il faudrait, et on en revient toujours au même problème, séparer l'homme de l'artiste, l'homme du politicien, du moment de l'histoire. La commémoration, l'hommage, l'honneur, le fait de révérer revient quasi systématiquement à participer à la propagation d'un obscurantisme dangereux. Cela nous incite à réfléchir sur la place de ces monuments dans notre société contemporaine et sur les manières de faire en sorte qu'elles ne participent pas à la réécriture de l'histoire. Aussi, il est nécessaire de penser leur mise en avant dans ou leur retrait de l'espace public. Il devient urgent, pour toutes les figures que nous avons relevées jusqu'ici et bien d'autres encore, d'entamer un processus de remémoration. Les plaques commémoratives ou les statues sont les symboles d'une culture dominante et jamais ceux de communautés subissant le racisme. Ces mêmes statues sont par ailleurs largement documentées, sauvegardées, conservées. En ce sens, elles ne seront jamais perdues. Mais surtout, les statues déboulonnées ne sont en aucun cas assimilables à des travaux universitaires, à des enquêtes, à des recherches, à cet ensemble de documents, produits, qui permettent d'étudier et de construire l'histoire. Aussi, la destruction de ces symboles n'affecte pas l'histoire, mais seulement la mémoire. L'acte de destruction des statues est un acte paradoxal d'abolition de la mémoire et de remémoration. Et en ça, c'est un acte assez chouette. C'est une manière de se réapproprier de l'histoire et de voir comment on a envie de l'écrire, qu'est-ce qu'on a envie d'en dire. Il réintroduit des faits historiques passés sous silence. Il réintroduit une forme de vérité qui fait éclater la mémoire inexacte, et qui fait éclater cette commémoration erronée qu'on croise tous les jours au coin de la rue. Du coup, on est assez contente de ce projet lyonnais. Vous pouvez le retrouver sur le site rebellion.info pour retrouver cette carte. Et si vous voulez y participer, vous pouvez écrire à carte Lyon anticolo, tout attaché, tout au singulier, @riseup.net.
Et on va aller de côté de Mayotte, du côté de Mayotte, pour vous relayer un communiqué qui a été lancé par deux collectifs, le collectif Migrants Outre-mer et l'Observatoire de l'enfermement des étrangers étrangères, qui dénonce comment l'État privilégie la répression de l'immigration en dépit du bon sens sanitaire. Mayotte est frappée depuis le mois de juillet 2019 par la plus importante épidémie de dengue jamais connue dans l'île. Et il s'agit de l'un des territoires les plus vulnérables face à la Covid-19. Toutefois, ces constats alarmants ne semblent pas être pris en considération par les autorités dès lors qu'il s'agit de lutter contre l'immigration clandestine, comme dit le gouvernement. Le 22 mai 2020, lors d'une audition devant la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, le ministre Jean-Yves Le Drian a fait savoir qu'il avait demandé à son homologue comorien de reprendre les réadmissions depuis Mayotte, c'est-à-dire les expulsions des étrangers étrangères se trouvant en Mayotte et ayant la nationalité des Comores. Des précautions sanitaires seraient prises pour procéder à des expulsions en toute sécurité, dit-il. Il faut savoir que Mayotte, c'est une préfecture modèle en France en ce qui concerne les expulsions des personnes sans droit au séjour. Ainsi, la préfecture de Mayotte se félicite des chiffres pour 2019 qui ont dépassé 27 000 expulsions, soit l'équivalent de 10% de la population de ce territoire. Il faut savoir qu'en même temps, en 2019, dans la métropole, on a vu environ 18 000 renvois forcés. Donc, en gros, les deux tiers de ceux de Mayotte. Le centre de rétention administrative à Mayotte, c'est le CRA de Pamandzi. Il a une capacité d'environ 150 personnes par jour et selon un rapport de 2016 du contrôleur général des lieux de privation de liberté, dans ce CRA, les personnes retenues sont essentiellement des Comores. Du coup, il s'agit de 98% des personnes retenues et de manière résiduelle des personnes de nationalité malgache. La proportion des enfants est considérable. 4700 mineurs ont été placés en CRA en 2015. Donc, c'est des chiffres un peu vieilles, mais du coup, la rétention des mineurs continue à être dénoncée à Mayotte encore aujourd'hui. Le nombre de personnes effectivement éloignées est lui aussi exceptionnel comparativement à la situation de la métropole. Le taux d'éloignement atteignait 97% en 2016. Au moment de l'épidémie de Covid-19, les associations présentes dans le centre de rétention de Pamandzi déplorent quotidiennement le manque de moyens dans la gestion de cette crise et plus particulièrement la difficulté de se procurer des masques, du savon et des solutions hydroalcooliques en quantité suffisante. Les précautions les plus élémentaires ne sont pas respectées. Au 4 juin 2020, et à la suite d'un dépistage massif décidé par l'Agence régionale de santé, 183 détenus sur un total de 323 de la maison d'arrêt de Magicavon ont été contrôlés positifs au Covid-19. Du coup, là, on parle d'une maison d'arrêt, donc une prison. Depuis, plusieurs détenus en fin de peine ont été transférés au centre de rétention administrative en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement, sans qu'aucune précaution ne soit prise. Donc c'est la double peine. On finit sa peine de prison et vu qu'on est étranger et qu'au passage on a perdu le droit au séjour, bah, directement on est transféré en centre de rétention pour être expulsé. Du coup, les risques de contamination, vu le nombre de personnes contaminées en maison d'arrêt, il est énorme, notamment dans ce centre de rétention administrative, si ces personnes y sont déplacées, parce qu'on connaît les risques dans les lieux de privation de liberté, compte tenu de la promiscuité, de l'impossibilité de tenir les gestes barrières et du manque de matériel. Donc le collectif Migrants Outre-mer et l'Observatoire de l'environnement des étrangers s'inquiètent également du risque élevé de la propagation du virus dans les autres îles de l'archipel, relativement préservées jusqu'à présent et où les infrastructures sanitaires sont quasi inexistantes. Cette décision est en parfait décalage avec les enjeux de santé publique internationaux. Par ailleurs, les services de la préfecture de Mayotte étant toujours fermés au public, de nombreuses personnes en attente d'un premier titre de séjour ou d'un renouvellement pourraient être expulsées sans que leur situation ait fait l'objet d'un examen. Sans compter que si des contrôles d'identité et interpellations devaient de nouveau être organisés sur un territoire où l'épidémie est galopante, la population étrangère se terrerait à nouveau. La crise alimentaire et les difficultés d'accès à l'eau s'amplifieraient. L'accès aux soins serait interrompu avec les conséquences désastreuses prévisibles. Il n'y aurait plus aucun suivi épidémiologique possible sur le territoire. Donc le collectif Migrants Outre-mer et l'Observatoire de l'enfermement des étrangers appellent les autorités françaises à renoncer à la reprise des expulsions et fermer jusqu'à nouvel ordre les lieux d'enfermement administratif à l'instar du centre de rétention administrative de Pamandzi.
Et non, on ne vous donne pas que des mauvaises nouvelles dans ce Canu Info. Et notamment, on avait envie de vous reparler de la loi Avia, ou dites la loi N. On vous en a déjà parlé il y a un mois et on vous a expliqué à quel point ça nous faisait peur, cette loi. Et bien, pour vous dire, le Conseil constitutionnel l'a largement rejetée cette semaine, ce qui nous fait plaisir. Victoire ! Alors, on va quand même vous redonner un petit peu de contexte. Après une longue année de lutte, le Conseil constitutionnel donc a déclaré hier, contraire à la Constitution, la quasi-intégralité de la loi de la lutte contre la haine en ligne. Au-delà de sa décision, le Conseil constitutionnel refuse le principe d'une censure sans juge dans un délai imposé d'une heure ou de 24 heures. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la loi Avia ? En prétendant lutter contre la haine, cette loi organisait en réalité une censure abusive d'Internet. La police toute seule, pouvait exiger la censure de contenus à caractère terroriste d'après elle en une heure. Les grandes plateformes devaient censurer tout contenu qui pourrait être haineux en 24 heures. Le Conseil constitutionnel a donc rendu une décision claire. Ce principe de censure dans un délai fixe, que le Conseil critique violemment, est contraire à la Constitution. Un tel délai fixe, pour tout type de contenu, aggrave considérablement le risque de censure abusive, voire de censure politique. Le Conseil constitutionnel souligne que seuls les contenus manifestement illicites peuvent être retirés sans passer par un juge. Or, reconnaître qu'un contenu est manifestement illicite demande un minimum d'analyse, impossible en si peu de temps. Cette victoire d'aujourd'hui est une lourde défaite pour le gouvernement. Il paye le prix d'une méthode irréfléchie et lourde de conséquences néfastes. Alors que Facebook se vantait d'utiliser efficacement contre la haine en employant des armées de personnes et de machines pour censurer les contenus sur sa plateforme, le gouvernement a lancé une sorte de mission Facebook pour s'en inspirer. Il a ensuite chargé Madame Avia d'une loi pour imposer à l'ensemble de l'Internet le modèle de censure toxique et algorithmique de Facebook. Cette tentative aura été aussi inutile que dangereuse et inconstitutionnelle. Mais surtout, le gouvernement est intervenu au dernier moment pour faire adopter à l'avance, en France, le règlement européen contre la propagande terroriste, qui prévoit lui aussi une censure sans juge et en une heure. Alors que les débats européens sur ce sujet sont loin d'être terminés et qu'aucun compromis ne se dégage, la France a voulu mettre le législateur européen devant le fait accompli en tentant ce tour de force risqué. Son pari est entièrement perdu. Si le débat sur le règlement européen se poursuit, la France y aura perdu l'essentiel de sa crédibilité pour porter une proposition qu'elle est presque la seule avec l'Allemagne à vouloir imposer. Alors, c'est une victoire certes, mais on vous conseille toujours de vous protéger sur le net, de protéger vos identités, de protéger vos données, mais on est hyper contente qu'Avia n'ait pas gagné.
Canu Info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Alors aujourd'hui dans la rubrique nucléaire, on va vous parler d'un incident qui s'est passé il n'y a pas si longtemps à la centrale de Golfech en Tarn-et-Garonne. Mais on va aussi vous parler d'une bonne nouvelle qui va arriver très bientôt. Et très bientôt, c'est la semaine prochaine et plus précisément mardi soir. Voilà. Donc, et ça se passe à la centrale de Fessenheim en Alsace.
Oui, en fait, on s'est dit qu'on vous balance tellement d'infos anxiogènes en vous parlant de tous les dangers du nucléaire et de tous les incidents qui se passent tout le temps, qu'il faut aussi partager les bonnes nouvelles. Et comme c'est la fin de l'année et bientôt les vacances d'été, on vous a même préparé un petit jeu, le quiz du nucléaire, oui, pour démêler le vrai du faux et surtout pour botter le cul aux fausses infos qui circulent en ce moment sur la fermeture de Fessenheim.
Oui, et on précise qu'il y aura à gagner un super pendentif au pouvoir miraculeux, donc à porter tout le temps et surtout la nuit. Et aussi, donc vous aurez le choix entre ça et une superbe petite fontaine qui, en toutes circonstances, vous donnera une eau rayonnante.
On vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 04 78 39 18 15.
Ça donne allez. Moyennement envie de gagner. Hein.
Mais ça donne envie de jouer. Bon allez, on commence par la mauvaise nouvelle, comme ça ce sera fait. Alors, on l'a appris en fin de semaine dernière, mais le 5 juin à la centrale de Golfech, donc c'est dans la région de Toulouse, encore un gros coup de chaud. Alors encore, parce qu'en fait on vous en a parlé en octobre dernier, lorsque les équipes d'EDF ont, par erreur, vidé l'eau du circuit primaire alors que le combustible nucléaire était encore dans la cuve du réacteur et qu'en plus, un capteur du niveau d'eau de la cuve était hors service. Donc en fait, EDF ne savait même plus s'il restait suffisamment d'eau dans le circuit primaire pour recouvrir le combustible nucléaire.
Et on vous le dit relativement souvent ici, le circuit, quand vous entendez circuit primaire, eh ben, ça veut dire gros danger. C'est lié à tout ce qui est la. C'est relié à toute la régulation de la réactivité nucléaire. Et donc, c'est la pierre angulaire de la sûreté. Si tant est qu'une sûreté est possible quand on joue ben, justement avec l'atome. Et qu'en fait, dans le circuit primaire, c'est aussi ultra radioactif. Et que, parce que forcément, on a le combustible qui baigne dedans.
Nous, on aime bien l'électricité nucléaire. C'est pratique et c'est super bien pour la nature.
Alors, le 5 juin 2020, une fuite de vapeur radioactive a eu lieu dans un bâtiment à la centrale de Golfech. Cette fuite est venue de deux robinets situés sur un circuit qui est directement lié au circuit primaire. La fuite s'est produite juste après une intervention de maintenance sur ce circuit. En fait, les deux robinets n'étaient pas correctement fermés. Ils présentaient un point dur à la fermeture selon l'autorité de sûreté nucléaire.
Alors, quand on lit le communiqué d'EDF, c'est pas très clair. Et d'ailleurs, en fait, il semble bien qu'au début, c'était pas non plus bien clair pour les équipes d'EDF ce qu'il se passait, d'où venait cette vapeur et tout et tout.
Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que dans le circuit primaire, l'eau est chauffée à plusieurs centaines de degrés. Et alors, tout le monde sait que ça bout à peu près à 90 degrés, l'eau, sauf que là, on va la mettre sous pression. Et la mise sous pression, ça fait qu'on peut, on peut avoir une température de l'eau qui va jusqu'à plusieurs centaines de degrés, justement. Sauf que lorsqu'il y a une baisse de pression, et ben là, d'un coup, l'eau se transforme en vapeur. Et donc, on a, on va avoir des fuites et un retour à une pression... enfin, voilà. Et l'eau s'évapore. C'est... Je ne sais pas si je suis très clair. donc, c'est là, en l'occurrence, sur de fuite, c'est de l'eau du circuit primaire qui a fui donc, via ses robinets, mais sous forme de vapeur, puisqu'elle s'est réévaporée. Voilà. De la vapeur, du coup, un peu radioactive, comme on dirait.
Voilà, parce que donc dans le circuit primaire, elle est tellement sous pression qu'elle ne peut pas s'évaporer, elle reste sous forme liquide. Mais dès qu'elle n'est plus sous pression et qu'elle redevient une pression normale, elle se transforme en vapeur puisqu'elle est à plusieurs centaines de degrés. Donc là, en l'occurrence, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est passé par les robinets qui n'étaient pas fermés, du coup, vapeur radioactive. Alors, mais en fait, c'est donc bien de l'eau du circuit primaire qui a fui et la quantité d'eau qui a fuité et ensuite s'est évaporée n'est pas du tout précisée par EDF. Par contre, elle paraît quand même importante puisqu'elle est supérieure à la limite maximale autorisée par les règles qui régissent le fonctionnement de l'installation nucléaire. Et cette limite, c'est pas rien puisqu'on parle quand même de plus de 230 litres par heure. Alors, la fuite du circuit primaire du 5 juin a été déclarée par EDF comme un événement significatif pour la sûreté. Mais pour autant, dans son communiqué, EDF précise que cette fuite n'a eu aucune conséquence pour la sûreté. Malgré donc la quantité importante de liquide primaire perdu et malgré une découverte qui n'a pas été immédiate. Alors, pas immédiate, mais en fait sur ce point non plus, aucune précision d'EDF dans son communiqué, si ce n'est une détection tardive quelques heures plus tard. Alors en effet, la fuite de vapeur radioactive a duré 6 heures au total. Ça, c'est une précision qui est donnée plus tard par l'autorité de sûreté nucléaire. Donc 6 heures, c'est un très très long laps de temps durant lequel EDF, le responsable de cette centrale nucléaire, n'a pas vu qu'il y avait une fuite du circuit primaire et pas une petite fuite en plus parce qu'en fait, il faut imaginer le contenu de 1400 bouteilles d'eau qui sont vidées là sur le sol.
Donc EDF a bien détecté qu'il y avait de la vapeur dans un local, mais a pensé au début que cette vapeur venait d'un autre circuit. Ensuite, EDF a constaté qu'il y avait une contamination du local, puisqu'il était devenu radioactif. Et donc, l'hypothèse de la fuite de vapeur provenant d'un autre circuit non radioactif ne tenait plus. Donc, 6 heures, pas moins, pour qu'EDF comprenne ce qu'il se passe et réagisse de manière, entre guillemets, appropriée. Appropriée, voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont envoyé une personne dans le local, donc plein de vapeur radioactive, pour voir ce qui se passait. Et donc, c'est cette personne-là qui s'est coltinée le fait de fermer les deux robinets qui fuyaient.
Et dans son communiqué, EDF souligne bien l'absence d'impact sur l'environnement, parce que la vapeur a été collectée, elle ne s'est pas échappée en dehors des locaux, et souligne l'absence d'impact sur la sécurité du personnel. Alors, on salue bien bas tout l'art de jeu de mots d'EDF. Sécurité du personnel, ok, ils n'ont pas été attaqués, mais il n'en est vraiment pas de même quant à leur protection contre les rayons. Parce que même si aucun n'a, semble-t-il, ingéré ou inhalé de radioéléments en suspension dans la vapeur, les personnes qui ont été envoyées au front et les travailleurs qui étaient présents au moment de l'incident ont été exposés inutilement à des substances radioactives.
Donc EDF ne mentionnera d'ailleurs pas une seule fois le mot radioactivité dans son communiqué, pas plus que le mot fuite. Pas plus qu'elle ne donnera d'explication sur l'origine, du robinet qui était desserré, les interventions de maintenance étant censées être surveillées et leur bonne exécution vérifiée.
Voilà, donc quoi qu'il en soit, en fait, cette déclaration d'événement significatif pour la sûreté pointe encore une fois le manque de qualité, mais aussi surtout de rigueur dans ce qui est l'organisation, l'exécution et les vérifications des opérations qui sont faites sur le site nucléaire. Et ça pointe aussi clairement un manque de surveillance de l'état des équipements pour ne pas voir qu'il y a une fuite importante du circuit primaire. Des manquements donc qui se cumulent et qui se répètent et qui perdurent en fait malgré plusieurs alertes de l'autorité de sûreté nucléaire qui, on le rappelle, a convoqué le directeur de la centrale de Golfech en tout début d'année.
Voilà, et donc maintenant on va passer au quiz.
Oui, le jeu.
Et donc, et ben voilà, ça va être le vrai faux sur Fessenheim.
Le vrai faux, c'est faux. Canu info. Oui. Et donc, à gagner, on le rappelle, un pendentif au pouvoir miraculeux et une fontaine à eau radieuse.
Voilà, donc première question. Fessenheim était sûr.
Attention.
Et voilà. Fessenheim était sûr et aurait pu continuer à fonctionner encore longtemps.
Vrai.
Alors, oui. Non, malheureusement, c'est faux. Désolé, tu n'as gagné ni le pendentif, ni la fontaine radieuse.
C'est peut-être tant mieux pour toi.
Parce que, du coup, c'est la plus vieille centrale en fonctionnement. Juste après, d'ailleurs, vient le budget. Et il faut savoir que la conception de ces centrales, à la base, était faite pour fonctionner juste 40 ans. Et donc là, et que, également, donc, il y a des visites décennales qui sont organisées tous les 10 ans. Et Fessenheim aurait, on va dire, échoué complètement dans ses examens de visite décennale. Donc, il était temps qu'elle s'arrête de fonctionner.
Alors, deuxième question. Attention, vous êtes prêts ? En fermant Fessenheim, la France va réduire son indépendance énergétique.
Faux ?
Et oui, bravo ! En effet, c'est faux, puisque en fait, d'indépendance énergétique en France, il n'y en a aucune, puisque de toute façon, tout le minerai utilisé comme combustible nucléaire est importé. Donc quoi qu'il en soit, une centrale nucléaire n'est pas du tout synonyme d'indépendance énergétique française.
C'est le cycle de la vie, si c'est comme ça. D'abord, on coupe tous les arbres, ensuite la mine décape complètement le terrain, et pour finir, on rebouche les trous avec des déchets nucléaires. C'est uniquement à ce prix qu'on évite toute dépendance énergétique malsaine au pétrole étranger.
Voilà, tout à fait. Autre question. La fermeture de Fessenheim va coûter très cher.
Faux.
Eh ben, c'est vrai. Puisque, et alors, figurez-vous, pourquoi ça va coûter très cher? Parce que EDF demande une indemnisation.
Non, EDF a eu une indemnisation. C'est pas EDF a demandé, c'est EDF a négocié, EDF a obtenu.
Et c'est l'État qui va devoir payer.
Donc vous, chers contribuables.
Et donc c'est entre 370 et 443 millions qu'ils ont demandé. Et pourquoi? Bah, c'est en dédommagement pour le manque à gagner de la production induite par la fermeture, entre guillemets, anticipée. Parce qu'ils s'imaginaient qu'ils allaient produire encore l'équivalent de tout ça. Donc voilà, donc faut savoir qu'il y a une plainte de l'association Réseau Sortir du Nucléaire par rapport à cette démarche-là qu'a fait EDF.
Il faut savoir aussi qu'en fait, il y a une demande officielle pour avoir communication de cette convention d'indemnisation, savoir un peu comment elle avait été montée et d'où il nous sortait ces montants absolument faramineux. D'autant qu'en fait, EDF est censé provisionner aussi l'arrêt de ses installations nucléaires et le démantèlement de ses centrales. Donc en fait, c'est censé être compris déjà dans le prix de base. Et qu'en fait, convention d'indemnisation a été refusée, c'est-à-dire que non, 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 vous, grand public, vous n'aurez pas le droit d'aller mettre votre nez sur ces petits chiffres.
Et oui, et on rappelle que cette fermeture était prévue depuis 2012.
Et qu'il y a eu aussi un rapport de la Cour des comptes qui est sorti en tout début d'année et qui critique clairement les clauses de cette convention, mais convention qui reste pour l'instant top secret. Alors, question suivante. Là, vous êtes prêtes ? Prêts ? La fermeture de Fessenheim va mettre des milliers de personnes au chômage.
Ouais.
Et ben en effet. En effet, c'est pas faux, c'est même vrai si aucune reconversion par EDF n'est engendrée pour ces travailleurs et travailleuses. C'est-à-dire que en fait, si EDF persévère dans cette moyens de production énergétique et qu'il ne vire pas vers les renouvelables, qu'il ne fait pas une reconversion massive de son personnel. En effet, ces personnes-là vont se retrouver un peu sur le carreau. Mais par contre, il faut bien faire la différence entre les salariés d'EDF, qui eux seront probablement reclassés, qui auront des formations, etc. Et par contre, les dizaines de sous-traitants qui eux travaillent du coup pour des autres petites entreprises qui n'ont pas du tout le même régime que les salariés d'EDF.
Prochaine question. La fermeture de Fessenheim va augmenter en flèche les émissions de CO2. Et ce sont les centrales à charbon allemandes qui vont prendre le relais.
Vrai.
Et non, c'est faux. Évidemment que c'est faux. Une installation n'est pas remplacée par une autre centrale dans un autre pays. Et en plus, la France surproduit beaucoup d'électricité. Et puis, il faut savoir aussi qu'en Allemagne, il y a le fantasme des centrales à charbon, mais il n'y a pas que ça. Il y a une vingtaine de projets charbon qui ont été annulés et c'est remplacé progressivement par des énergies renouvelables. Donc voilà. Et aussi, il faut savoir, c'est qu'on nous bassine tout le temps avec le CO2. Il faut savoir qu'il n'y a pas que le CO2 et que les centrales rejettent d'autres gaz à effet de serre et qui ont un effet de serre beaucoup plus important que le CO2. Et on en a déjà parlé ici. Il y en a un qu'on connaît qui s'appelle le SF6.
Hexafluorure de soufre, 31 000 fois, je crois, plus puissant que le CO2 en pouvoir réchauffant. Et enfin, la toute dernière question. La France risque le blackout avec la fermeture de Fessenheim. Il faudrait la repousser.
Un blackout ?
Mmh. Un blackout total, une grosse coupure d'électricité. Le comment noir sur tout le pays.
Perte d'énergie absolument fondamentale.
Il n'y a plus d'électricité.
Écoutez Radio Canu sur la FM. Avec des piles.
Avec des piles, ouais. Et bien donc évidemment c'est faux, il n'y aura pas de blackout par la fermeture de ces deux réacteurs, alors surtout qu'il y en a un qui est déjà arrêté en fait depuis février, le deuxième s'arrête mardi, mais il y a quand même 58 réacteurs nucléaires en France, on est en surproduction très très fréquemment, et surtout en fait il faut bien se rappeler que des arrêts de réacteurs il y en a tout le temps, plusieurs mois, tout au long de l'année, et que pour autant ça ne nous met pas en danger, donc c'est pas la peine d'aller faire des courses de bougies.
Et voilà, c'était la fin, c'était le quiz. Mais vous n'avez pas gagné de pendentif, j'ai l'impression, là.
En tout cas, pas moi.
Non, mais peut-être vous vivrez plus longtemps.
Ça me va. Prochaine fois, peut-être.
Canu Info.
Et dis pas de mal des cochons. Mais
ça pue un cochon.
Violence policière. Canu Info.
La police fusille, la police assassine. Question de droite, le socialiste, la police mutile.
Violence policière.
Alors, c'est pas que de violences policières qu'on va vous parler, parce qu'on va revenir aussi sur des violences interquartiers, mais on avait envie de revenir un peu sur ce qui se passe à Dijon et ce qui défraie un peu la chronique et notamment les grands médias, et ce qui sert surtout de tremplin complètement nauséabond à l'extrême droite ces derniers temps. Du coup, on va vous lire un peu une compilation de textes qui paraissent actuellement sur ce qui se passe dans le quartier des Grésilles à Dijon. Parce que poubelles incendiées, voitures dégradées, tirs de coups de feu, armes lourdes, les images circulent abondamment et attisent tous les fantasmes. En plein mouvement contre le racisme et les violences policières, c'est l'actualité idéale pour brouiller les cartes, redorer le blason de la police et raviver le racisme envers les habitants et les habitantes de certains quartiers, comme celui des Grésilles.
Mercredi 10 juin, un garçon de 16 ans issu de la communauté tchétchène a été violemment passé à tabac par un groupe d'individus désignés comme étant des maghrébins. On suppose une histoire liée au trafic de cocaïne. Très vite, sur les réseaux sociaux, tourne un appel à la vengeance auquel répondent de nombreuses personnes d'origine tchétchène.
Vendredi 12 juin, une centaine de vengeurs venus de divers coins de la France, de Belgique et d'Allemagne, etc., débarquent dans le bar de Hachicha à Black Pearl, près de la place de la République. C'est ici que sont censés se retrouver les responsables du passage à tabac. Les Tchétchènes font une démonstration de force pour intimider les agresseurs, il y aura une dizaine de blessés. Le lendemain, une cinquantaine de Tchétchènes mettent un coup de pression sur le quartier des Grésilles, où vivraient les responsables de l'agression du 10 juin. Quelques confrontations ont lieu. Des représentants des deux communautés se retrouvent pour régler le conflit. Les Tchétchènes font plusieurs déclarations qui affirment que leur volonté est seulement de faire peur aux dealers maghrébins responsables du passage à tabac ou liés à eux afin que les coupables soient pris en charge par leur propre communauté.
Pourtant dimanche, le conflit s'enlise et l'ambiance s'alourdit à Grésille. Environ 200 Tchétchènes font une dernière manœuvre d'intimidation avant de quitter la ville. Des vidéos dignes d'un film d'action circulent sur les réseaux sociaux. La colère monte, de nombreux habitants et habitantes, au cœur du théâtre des affrontements, se sentent pris au piège, impuissantes. D'autres descendent équipés pour protéger leur quartier. Leur honneur est en jeu, et derrière les dealers, il y a aussi des hommes qui descendent montrer qu'ils ne vont pas laisser leur lieu de vie se faire agresser de la sorte. Le quartier est sous le choc. Heurté par la violence de l'incursion et par l'abandon complet des autorités, beaucoup ont choisi de se défendre eux-mêmes. En effet, rien n'a été fait pour empêcher les Tchétchènes de débarquer à Dijon. Puis, durant le week-end, rien n'a été tenté pour faire diminuer les affrontements.
Et pour finir sur les faits, lundi, c'est l'État qui parade. Assuré du départ des Tchétchènes, il déploie sa police tout autour des Grésilles. Des snipers sont placés sur les toits. Les CRS et la gendarmerie mobile sont en place pour éviter que le désordre ne déborde du quartier. Des bandes de jeunes cagoulés arpentent les rues. La police boucle la place. Les écoles sont évacuées. Cette fois, la démonstration de force est unilatérale. Des jeunes de Quetigny et de Fontaine-Douche sont venus en renfort. Il n'y a plus personne en place. Mais ce qui importe, ce sont les images produites. Destinées aux assaillants, les parades armées ont pour but de démontrer que le quartier est capable de se défendre. Elles sont aussi un exutoire, car derrière la violence, c'est la peur, le choc et le dégoût qui se dissimulent. La police laisse tout ce petit monde se défouler. Elle n'investit le quartier que lorsque les choses se tassent. Elle roule des mécaniques, les caméras sont là, l'ordre républicain est rétabli. On ne va pas s'émouvoir du fait que des journalistes qui jouent à ce petit jeu ont vu leur voiture détruite. Ce jeu de dupes vient rajouter une couche de mépris vis-à-vis du quartier. Alors, beaucoup de monde ressort dans la nuit. Et pas seulement au Grésilles, mais aussi à Chenôve. Car si les Tchétchènes sont partis, c'est désormais la police qui occupe les lieux. De nombreux et de nombreuses habitantes ressentent cela comme une double peine. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'ordre maintenant? Ils étaient où les flics ce week-end? Ils protègent quoi là?
Lundi, c'est la démonstration de force du côté des autorités. BAC, CRS, GM, RAID, tout l'attirail sécuritaire est déployé autour du quartier des Grésilles. Trop tard, les Tchétchènes sont partis. La police n'intervient qu'une fois que les affrontements sont terminés et sa présence attise la colère des jeunes du quartier. Belle démonstration d'impuissance. Encore une fois, la police a prouvé qu'elle ne servait qu'à attiser les tensions, créer du désordre et exacerber les conflits. Pourtant, toutes les déclarations dans la presse vont dans le sens de l'acclamation. Et Rebsamen dit aller de sa petite déclaration. Il faut plus de policiers dans nos villes, que ce soit à Nice, à Lille, partout. Il nous faut plus de policiers et on manque de policiers. Et donc cette police nationale, elle fait tout ce qu'elle peut et moi je lui rends hommage avec le peu de moyens dont elle dispose. En tout cas, pas assez de moyens. En plein mouvement contre les violences et le racisme de la police, il choisit son camp et le clameau est fort. Il prend le parti de ceux qui propagent la haine et le racisme en usant d'une violence légitimée par ceux qu'il protège, les hommes de pouvoir.
Il est important enfin de remettre ces événements à leur place et d'observer quel comportement la police a adopté durant ce week-end afin d'en faire une analyse détaillée. Il est primordial de ne pas mêler ces affrontements aux questions de racisme qui sont posées publiquement en ce moment. Il est perceptible que, lors de ce conflit, la xénophobie a circulé. Et il est primordial de désamorcer tout ce qui peut attiser la haine entre les communautés. Mais rappelons que le racisme est une idéologie qui prend forme au sein d'une catégorie de personnes exerçant un pouvoir sur une autre catégorie, qu'elle se développe lorsque ce pouvoir est remis en cause et que ses détenteurs refusent de se considérer comme les égaux des individus de l'autre catégorie et de perdre leurs avantages. Nous ne pouvons donc en aucune manière parler de racisme pour désigner ce qui s'est passé ce week-end à Dijon. Et nous ne devons pas oublier que s'il y a du racisme, là où il est installé le plus confortablement, c'est au sein de la police et de l'État.
Lundi, dans la journée, ce racisme structurel s'est exprimé précisément dans le maintien de l'ordre. La police avait, semble-t-il, reçu l'ordre de ne pas intervenir tant que les émeutes ne concerneraient que le quartier de Grésilles. Elle devait par contre empêcher que l'ordre républicain ne soit troublé ailleurs dans la ville. Traumatisée par les scènes auxquelles il et elle avaient assisté, Certains habitants et habitantes du quartier se sont sentis profondément méprisés par l'État. Alors que 15 heures approchaient et que différents services publics avaient reçu des directives pour que ces fonctionnaires quittent le quartier, les habitants et habitantes restaient sur place, dans une zone confinée et bouclée par la police.
Actuellement, on est face à une instrumentalisation à des fins xénophobes. Suite aux affrontements, l'extrême droite a très rapidement cherché à instrumentaliser les événements de Dijon en inondant les réseaux sociaux. L'objectif, clairement affiché, était de remettre en cause le combat actuel et qui trouve un écho grandissant contre les violences policières et contre le racisme d'État, en remettant en question le débat ouvert sur la question du désarmement de la police. Présente à Dijon ce mardi 16 juin, Marine Le Pen a tenu une conférence de presse qui a pris les allures de lancement de campagne présidentielle. Je peux vous la citer vite fait. « Des bandes se livrent à une guerre ethnique, armes automatiques à la main. Voilà en toute clarté la réalité de l'ensauvagement. » Elle a quand même employé le terme « ensauvagement », telle notamment déclarée, appelant des retraits de titres de séjour.
De son côté, le gouvernement marche clairement sur les plates-bandes du Rassemblement national dans un contexte où l'institution policière a mis la pression sur l'exécutif ces derniers jours. Ainsi, selon LCI, l'Élysée a demandé au ministère de l'Intérieur d'expulser les Tchétchènes interpellés. Plusieurs figures de la France insoumise, dont Jean-Luc Mélenchon et donc Adrien, je ne connais pas ce nom, je ne sais pas comment ça se prononce.
Quatennens.
Quatennens, merci. Donc comme quoi je suis une grande fan de la France insoumise, se sont alignés, donc Jean-Luc Mélenchon et Adrien Quatennens se sont alignés sur l'expulsion des réfugiés ou demandeurs d'asile qui feraient partie des affrontements ayant eu lieu à Dijon. Ainsi, Adrien Quatennens a confié à France Inter, s'il est avéré qu'il y a parmi les mises en cause des demandeurs d'asile et ou des réfugiés, clairement, ils n'ont rien à faire en France.
Un positionnement qui va dans le sens de se ranger derrière celui ouvert par le président de la République sur la question des expulsions d'étrangers impliqués. Une position des plus scandaleuses sur le fond de xénophobie anti-tchétchène et plus généralement contre tout réfugié venant de zones de guerre.
Qui sont les véritables responsables? Bien entendu, la vaste opération d'instrumentalisation politique sur fond de xénophobie anti-tchétchène menée tant par le gouvernement que l'extrême droite, mais aussi la France insoumise, n'invalide pas le fait que ces violences interquartiers sont condamnables en tant qu'en définitive, elles pèsent sur les quartiers populaires. Une tension qui a pu être exacerbée par le confinement qui accentuait les inégalités et aiguisait les tensions sociales. On le sait, les jeunes des quartiers populaires, bien avant même le Covid-19, sont touchés par un chômage et une misère grandissante ces dernières décennies, qui forment le terreau propice au développement d'organisations clandestines de trafic en tout genre. Une situation a été renforcée par l'épisode pandémique, avec des taux d'infection au Covid-19 supérieurs dans les quartiers populaires, dû principalement au fait que les habitants et habitantes de ces quartiers ont été majoritairement en première ligne face au virus.
Contre les arguments xénophobes développés par la classe politique, contre ces gens qui viennent des zones de guerre, tout au contraire, il nous faut, contre la stigmatisation des personnes en situation irrégulière, d'où qu'ils viennent, exiger la régularisation massive des personnes sans papier et l'égalité pour toutes et tous, justice et la relaxe pour toutes les personnes victimes de violences policières et des revendications sociales pour le développement de services publics de qualité, etc., etc., comme d'habitude. Lutter efficacement contre l'extrême pauvreté et l'ensemble des violences, tant sociales que racistes ou policières, générées par le système actuel, est aujourd'hui toujours plus urgent.
Les Blancs n'ont rien à foutre de nous. Ils nous laissent crever, lâche un habitant. Nous pensons aux habitantes et habitants des Grésilles qui ont été obligés de faire face à cette double violence et nous leur exprimons notre solidarité.
Si vous voulez avoir plus d'informations sur la situation, vous pouvez vous rendre sur le site disjoncté.info, qui est un site dijonnais qui fait un suivi intelligent de ce qui se passe en ce moment au quartier des Grésilles comme ailleurs.
Canu, info.
Invisible et disponible, libre et irréductible.
Actu féministe. Canu info du vendredi.
Et alors, assez rapidement, sur la scène féministe et du côté de l'international, eh ben, pour le coup, c'est une mauvaise nouvelle, puisqu'on avait envie de vous parler de la Roumanie. Et ce mercredi matin, on apprend en effet que le Parlement roumain a interdit les études de genre dans les écoles et universités, malgré de vives critiques sur les réseaux sociaux et dans le milieu académique, qui dénoncent une dérive illibérale, rappelant la Hongrie du Premier ministre nationaliste Viktor Orban. Nous sommes stupéfaits qu'une théorie académique puisse être interdite par la loi, a par exemple réagi dans un communiqué l'université Babès-Bolduaille. Les cours sur l'identité de genre et l'égalité des chances seront interdits en violation de l'autonomie universitaire. C'est un sujet de son côté, le sénateur et professeur à l'université de Bucarest, Vlad Alexandrescu, regrettant l'instauration d'une police de la pensée. Le texte liberticide doit être promulgué par le président de centre droit Klaus Iohannis pour entrer en vigueur. Avant la Roumanie, la Hongrie voisine avait interdit les études de genre en 2018. Et le mois dernier, Budapest a également interdit l'inscription du changement de sexe à l'état civil et la reconnaissance juridique de l'identité de genre des personnes transgenres, malgré de nombreuses protestations internationales. Toute notre solidarité, bien sûr, aux personnes en Roumanie et en Hongrie, et le combat continue.
Radio Canu.
Bonjour, je m'appelle Mathieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ACAB ?
Radio Canu. Canu Info du vendredi.
Et bah aujourd'hui, ACAB, ça veut dire, attention, abolissons les cras.
Et arrachons des boulons surtout.
Et tout de suite.
Abolissons les cras.
Aussi. Et tout de suite, on vous laisse avec Noise Pollution, une belle émission de musique classique.